Voilà, bonsoir et merci de rester à une heure assez avancée. On va discuter un peu maintenant sur l'univers religieux de la stèle de Mécha. C'est très bien qu'André Lemaire a déjà discuté un certain nombre de choses. On va retrouver quelques questions. Et évidemment, il y a beaucoup de choses, comme André l'a souligné aussi, qui restent ouvertes et discutées. Je voudrais commencer en fait avec un rappel que lorsque la stèle a été pour la première fois publiée, portée à la connaissance du public, il y a très vite beaucoup des thèses, notamment en Allemagne, à Tübingen, on en a quelques-uns chez nous, qui ont été publiées pour montrer que la stèle de Mécha, en fait, c'est un faux. Alors, si c'était vrai, en fait, tout ce colloque, toute cette exposition serait un peu inutile. Espérons que ça ne soit pas le cas. Mais pourquoi est-ce qu'on a argumenté que c'est un faux ? En fait, l'argument principal de cette thèse consistait dans l'idée que le récit de Mécha fait apparaître une théologie très proche de certains textes bibliques, selon laquelle la défaite militaire d'Israël est le résultat de la colère de Yahvé, qui sanctionne son peuple, voire le roi, pour ne pas avoir respecté ce commandement. Donc on pensait que ça ne pouvait pas être la même chose, donc ce serait une sorte de copie de l'idée de la Bible. Ainsi, l'histoire deutéronomiste explique la destruction de Jérusalem et l'exil babylonien comme étant le résultat de la colère ave de Yahvé, comme on le voit ici en 2 Rois 24:2, je n'ai pas besoin de vous le lire. Et de même, Mécha explique dans sa stèle, Omri fut roi d'Israël, opprima Moab pendant des longs jours, car Kemosh était irrité, donc avec la même racine, contre son pays. Donc c'est une idée très très proche. Donc le fait que le roi israélite Omri remporte une victoire militaire, annexe une partie du pays de Moab et expliqué comme étant la conséquence de la colère de Kemosh ou de Kamosh. D'une manière similaire, on trouve dans la Bible des nombreux récits et des commentaires théologiques qui expliquent les défaites militaires d'Israël ou de Juda par la colère de Yahvé, comme ce texte que vous avez dans le livre des Juges. Il s'ensuit que la théologie de la colère du Dieu tutélaire n'est pas une invention deutéronomiste, mais qu'elle est répandue dans le Levant, voire dans tout le Proche-Orient ancien. La colère des dieux peut bien entendu aussi viser, ou d'abord peut-être même viser les ennemis du peuple, et la Bible même semble conserver un texte qui, originellement peut-être, parlait de la colère de Mécha contre les Israélites. Avatnir l'a déjà indiqué. C'est le fameux texte 2 Rois 3:27 où probablement Mécha, bien qu'il ne soit pas mentionné, sacrifie son fils à un moment où il est dans une situation militaire difficile. Et du coup, on dit, il eut un grand courroux contre les Israélites qui décampèrent de chez lui et retournèrent dans leur pays. Donc le récit biblique n'indique plus qui est le sujet de cette colère, mais il est assez plausible qu'il s'agissait originellement de la colère de Kemosh, qui suite à un sacrifice ultime du roi sous sa protection, est intervenu en faveur de Moab, en forçant les Israélites à lever le siège. Je ne vais pas discuter en détail ce texte parce que demain, nous avons une conférence de Mathieu Richel qui va nous expliquer tout cela en détail. C'est juste un peu, comme on dit dans les séries de télévision, un hangover, pour que ça vous revienne. Demain matin, je vous dirai tout à l'heure qu'il y a un petit changement de programme. Donc il ne fait aucun doute que Kemosh, comme Yahvé, était au IXe siècle, avant l'ère chrétienne, vénéré comme étant des dieux tutélaires, des dieux qui avaient un peuple dont ils s'occupaient. Le poème de Deutéronome 32 garde des traces qu'à cette époque, Yahvé fut en effet considéré comme étant le dieu protecteur d'Israël. Je vous ai mis d'abord le texte massorétique des versets 8 et 9 qui contient, selon l'avis quand même de la majorité des exégètes, une altération volontaire d'un texte plus ancien qui est conservé particulièrement, partiellement dans la version grecque et dans un fragment de Qumran. Dans le texte masorétique, on ne comprend pas grand-chose, on ne sait pas très bien ici qui est le Très-Haut, apparemment identifié à Yahvé et pourquoi le Très-Haut aurait fixé les frontières des peuples selon le nombre des fils d'Israël. Ça, ce n'est pas très clair. Par contre, si vous prenez le texte primitif reconstruit sur la base de la Septante et du fragment de Qumran, on comprend très bien de quoi il s'agit. Quand Elion donna les nations en héritage, quand il répartit les hommes, il fixa les territoires des peuples suivant le nombre des fils de El et pas d'Israël, et la part de Yahvé et son peuple, Jacob, Israël, donc sa part attribuée. Donc nous avons en fait ici une sorte d'assemblée de divinités présidée par Elion au moment de la création et l'organisation du monde, et où chacun de ses fils reçoit un peuple. Elion est bien attesté au premier millénaire, soit comme nom propre d'une divinité, soit comme titre attribué au dieu El, président des panthéons cananéens. Ce fragment mythique explique que El, qui selon les textes d'Ougarit a 70 fils, justement. Alors ça c'est intéressant en détail, parce qu'après on dit les Israélites qui descendent en Égypte sont aussi au nombre de 70, c'est certainement inspiré de tout cela. Donc a organisé le monde en mettant donc chaque peuple sous le patronage d'un de ses fils. Les poèmes expliquent ainsi la diversité des peuples. Je vais juste prendre un peu d'eau. Les peuples, donc, comme étant attribués à des dieux tutélaires différents. Yahvé, donc, le dieu tutélaire d'Israël, comme Kemosh, le dieu des Moabites, ou Milcom, le dieu des Ammonites. Donc, dans cette perspective, en fait, Yahvé et Kemosh sont des frères. Hein. Ils sont considérés comme étant tous des fils de El. Dans cette perspective, donc, on pourra aussi citer le psaume 82 qui évoque également des dieux qui se tiennent dans l'assemblée de El et qui sont tous appelés deux fils de Elion. Donc on a vraiment là un univers religieux qui est très très proche dans l'inscription de Mesha ou Moshi, comme l'a suggéré Manfred Weipert, qui a donc en fait à l'origine de ce colloque. Mesha, bah, c'est un peu, on a pris l'habitude, mais c'est vrai, il a quelques arguments aussi pour Moshi. Voilà, alors maintenant, si on revient sur la stèle, qu'est-ce qu'on peut dire en fait sur le dieu Kemosh? On va en fait regarder un peu les différents acteurs. Donc, le dieu Kemosh nous est notamment connu comme étant le dieu tutélaire de Moab grâce à la stèle de Mesha, mais aussi dans une autre inscription du même Mesha, et d'ailleurs dans des noms propres moabites et dans quelques textes bibliques. La plupart des textes bibliques présentent Kemosh comme étant le dieu des Moabites. Selon Juges 11, 24, par contre, vous avez le texte, Kemosh serait aussi le dieu des Ammonites. Alors là, il y a beaucoup de discussions. Beaucoup de gens, comme le père Lagrange et bien d'autres commentateurs, disent c'est juste une erreur d'un rédacteur, d'un auteur qui n'a rien compris, donc qui a confondu les choses. Mais on peut aussi se poser la question si, à un moment donné, il y avait aussi la vénération de Kemosh en dehors de son pays, hein, dans des régions un peu limitrophes. On a cela tout à fait pour Yahvé. Hein, si vous prenez Yahvé, il n'est pas seulement vénéré en Israël et en Juda. On a un Kuntilet Ajrut, un Yahvé de ou du Théman, parce qu'une fois avec, une fois sans article. Et puis on a peut-être, dans des textes assyriens, des noms des rois araméens qui ressemblent un peu à des noms yavistes, hein, des noms théophores avec le nom de Yahvé. Alors, l'étymologie du nom Kemosh est incertaine, mais peut-être trop d'importance. Donc, on a toujours essayé de trouver les étymologies comme Yahvé. On se débat toujours pour savoir quelle est son étymologie. C'est peut-être pas si important. On a suggéré des rapprochements entre son nom et la divinité Kamish, qui est attestée à Ebla Marie, notamment Jean-Marie Durand, mais aussi déjà Hans-Peter Müller. Une autre étymologie, ou une étymologie possible, a été proposée par Tobola, qui pense en effet qu'il faut le mettre en rapport avec un adjectif kumusu, qui voudrait avoir le sens de redoutable, puissant, ce qui serait approprié d'une certaine manière pour Kemosh, si nous avons là affaire à une divinité guerrière. Ceux qui ont visité le Louvre ce matin, ils ont vu cette statue qu'on a souvent identifié à Kemosh, mais dont l'identification reste quand même assez incertaine. Et je profite, en fait, je me rends compte maintenant, pour saluer Marielle Pic, conservateur du Louvre, qui nous fait le grand honneur d'assister, et surtout à moi, donc du coup, je suis un peu inquiet. Voilà. Donc, merci beaucoup d'être venu. Nous avons déjà dit tout le bien que nous pensons du Louvre et de nos collaborations. Donc, voilà, je continue avec... Voilà. Voilà, alors nous venons maintenant à un premier problème qui était déjà en effet annoncé par André Lemaire. C'est que la stèle de Mesha contient, comme on le sait, la plus ancienne attestation du tétragramme du nom du Dieu d'Israël. Donc il apparaît dans le contexte suivant. Selon l'inscription de Mesha, celui aurait repris les villes occupées par Israël, et par rapport à la ville de Nebo, Mesha se vante, j'ai remporté là les vases de Yahvé et je les traînais devant la face de Kemosh. Alors, Keli, si c'est bien le mot qu'il faut traduire ici, c'est un mot très général qui peut en effet désigner toutes sortes d'objets cultuels, voire compris des statues peut-être. On les retrouve dans la Bible lors du pillage du temple de Jérusalem et également dans des textes post-exiliques qui parlent du retour de ces objets dans le temple donc reconstruit. Ce qu'il faut souligner, c'est le fait que cette remarque dans la stèle de Mesha présuppose en fait, et ça ce qui est intéressant, présuppose en effet un sanctuaire de Yahvé à Nebo. C'est ça ce qui, à mon avis, est remarquable. D'où il aurait en effet déplacé Mesha, selon une coutume bien attestée, les ustensiles ou autre chose dans le temple de Kemosh. Donc là, vous avez tous les textes. Je suis d'accord, peut-être qu'il ne faudrait pas lire concubine, mais bon, là, je repris un texte que j'avais. Alors, je suis tout à fait d'accord de l'argument de André. Donc, avant le déplacement des objets du sanctuaire, le roi prétend avoir tué 7000 habitants de la ville, sans doute un chiffre rond exagéré, et cette mise à mort est décrite, comme dans certains textes bibliques, notamment dans le Deutéronome et dans le livre de Josué, comme un « cherem », comme un sacrifice humain en partie, mais pas seulement, en reconnaissance de l'intervention divine lors du combat. Cet interdit est offert dans la stèle de Mesha à Ashtakemosh, un nom sur lequel je vais revenir dans un moment. Ce qui est intéressant, c'est si on reste un moment au sanctuaire de Nebo, qui en effet n'est pas mentionné dans la Bible hébraïque. Hein? On peut imaginer que les rédacteurs des livres des rois ne voulait pas mentionner un tel sanctuaire éphémère du royaume du Nord, soit parce que construit par Omri, soit parce qu'il a détruit par un roi moabite. Donc ça dépend un peu de la théologie qui aurait en effet provoqué cette omission. Mais ça, c'est quelque chose, grâce à l'archéologie, dont on se rend de plus en plus compte que des sites importants que nous trouvons ne sont pas mentionnés comme étant des sanctuaires dans la Bible hébraïque. Dernier exemple, le sanctuaire de Motsa, pas trop loin justement de Jérusalem ou de Kiryat Yearim, qui est apparemment un temple important et dont la Bible ne parle pas. Avant ce passage se trouve la mention de la prise de la ville de Astaroth. Au sujet de la prise de cette ville, Mesha dit d'avoir emporté là le Ariel de Dodo. Le terme Ariel désigne apparemment la partie haute de l'autel à Holocauste, si on prend aussi Ézéchiel. Le terme DWD est en revanche moins clair. Selon certains, ce serait en effet ici simplement un titre pour Yahvé, le bien-aimé, dont il aura eu aussi un sanctuaire à Atzaroth. Mais il y a un petit problème logique dans la perspective de l'inscription de Mesha. C'est un peu étonnant puisque en fait, le nom de Yahvé est seulement mentionné après. Hein, donc alors il faudrait que les gens sachent déjà que ces dots désignent Yahvé. Et ça, c'est peut-être un peu difficile. Mittmann et Weipert ont proposé de comprendre ce mot doud dans le sens de bratpeken, sorte de poêle ou casserole cultuelle, hein, aussi dans la dernière traduction que fait Weipert dans le Historische Handwerktabuch. Mais là, on ne saura pas très bien, à ce moment-là, c'est un peu un doublon, me semble-t-il, à qui aurait été dédié l'hôtel à Atarot, et la syntaxe semble plutôt indiquer que ce Ariel se trouve plutôt en état construit. Donc je pense qu'il faut donc plutôt retenir l'idée que Dode, ici, désigne la divinité d'Atarot. Et s'il s'agissait seulement d'une appellation pour Yahvé, le nom propre, me semble-t-il, devrait précéder le titre. Donc apparemment c'est une autre divinité, peut-être le dieu local, vénéré aussi par les Israélites. Et nous avons en effet une certaine attestation dans la Bible, puisque dans le texte primitif de Amos 8, 14, on peut peut-être en effet le reconstruire. Dans le texte massorétique, on trouve quelque chose d'un peu curieux. Ils jurent par le péché de Samarie, ils disent « Vive ton dieu Dan, vive la voix de Beersheba ». La voix de Beersheba, c'est un peu curieux, hein, et c'est intéressant que la Septante, en fait, le texte grec, parle du dieu Théos de Beersheba. Donc, si on prend cette correction, on peut peut-être, alors pour ceux qui savent l'hébreu, on peut peut-être en effet penser que à l'origine, on avait plutôt un Dalet Dalet Kaf au lieu de ce que lisent les Massorètes, un Dalet Resh Kaf, ce qui est, à mon avis, tout à fait possible. Donc, on aurait en effet ton bien-aimé, comme dans la stèle de Mécha, vive ton dieu Dan, vive ton bien-aimé d'Hôte Beersheba. Donc c'est peut-être pas forcément un nom propre, mais peut-être en effet un nom pour des dieux liés à certains, à certains sanctuaires. Alors, maintenant on vient à une question très discutée, qui va nous occuper un tout petit peu. Est-ce que Kemosh avait une femme ? C'est le même problème pour Yahvé, je ne veux pas ouvrir le débat pour Yahvé. Maintenant, je pose plutôt la question si on peut imaginer une parèdre pour Kemosh. Le dossier pour avancer dans cette question, je l'avoue, est très mince. Je commence avec quelques propositions iconographiques avant de revenir à la stèle de Mécha. On a voulu voir dans un trio représenté d'une manière très, très égyptienisante, je ne sais pas si vous pouvez le voir, sur la stèle de Baloua, donc provenant de Moab, datant sans doute de la première partie du Xe siècle. On a voulu voir le roi moabite face à Kemosh et derrière lui sa parèdre. Néanmoins, ces indications restent incertaines. Et peut-être, est-ce qu'il y a déjà une royauté bien établie à ce moment-là à Moab ? Ça, c'est une autre question. Donc, je pense qu'il faut rester prudent. Il faut rester encore, donc ça a été suggéré par Horsfield et Van Zyl, et il faut peut-être encore rester plus prudent par rapport à ce sceau de Diban, datant du niveau du fer 2, et montrant également une influence égyptienne, un dieu... le temps que j'essaie de me faire marcher ça. Voilà, donc un dieu cornu ici, hein, et sous la forme d'un scorpion, a-t-on dit, il y aura une représentation de la déesse ici. Déjà, ce n'est pas très logique quand on regarde un peu la représentation de ce sceau. Hein, ils ne sont quand même pas vraiment mis en couple. Et puis, on ne sait pas trop bien non plus quoi faire de ce quadrupède, de ce bouquetin dans ce sceau. Donc, je pense là aussi, il faut être très prudent. Je mentionne encore le torse d'une statue qui rappelle également un peu des influences égyptiennes, trouvée à Kirbet Atarus, 14 km nord-ouest de Diban par Hermann Niemann, et qui pourra aussi présenter une déesse, mais de nouveau, ça c'est peut-être un peu une maladie aussi des fouilleurs, dès qu'on trouve une figurine, on veut y voir une déesse. On n'a pas tellement vraiment d'indications. Alors peut-être la chose la plus intrigante pour la fin, dans une tombe du 8e siècle à Amman, on a trouvé une figurine en argile qui possède un corps féminin, donc c'est une femme enceinte qui tient le ventre, et dont la tête, par contre, est barbue, c'est clairement un tête masculin. Et donc, certains, comme Holmes Frédéric notamment, ont pensé que cela pourrait être en effet une représentation de Ashtar Kemosh. De nouveau, ça reste difficile, mais je vais revenir à la fin vers cette image qui a quand même un certain intérêt. Revenons maintenant au dossier de la stèle, de l'inscription, Ashtar Kemosh dans l'inscription de Mesha. Je vous rappelle le contexte. En effet, à Ashtar Kemosh, on va lire comme ça pour le moment, je les avais voués donc le butin qu'il a donc fait. Donc dans le contexte de la prise de la ville de Nebo. Donc ce qui est intriguant, intéressant, que c'est ici dans ce contexte de l'offrande du Kherem, on ne parle pas de Kemosh, mais on parle de Ashtar Kemosh. Alors, Clermont-Ganneau, revenons à Clermont-Ganneau, dans son édition de la stèle, il avait interprété cette expression comme, je cite, une des émanations féminines de type mâle, si commune dans la mythologie sémitique, et il y voyait une nouvelle forme du nom Astoreth. Suivi ensuite par le père Lagrange, qui voyait en Ashtar l'épouse de Camos, sa déesse paraître. Très vite, cette interprétation a été contestée. Hitzik a proposé d'interpréter Ashtar comme un substantif signifiant le trésor. Donc, il traduit den dem Schatze des Kamosch wurde die Beute geweiht. Donc, c'est au trésor de Kamosch qu'on a consacré le butin, ce qui crée un certain contresens puisque le Kherem indique au moins en théorie que le butin est brûlé, donc c'est un peu difficile. L'idée similaire selon laquelle Ashtar ne serait pas ou plus un nom propre mais un nom générique se trouve dans l'interprétation de Stern qui en effet y trouve un épithète, le guerrier. Mais là aussi, il n'y a pas tellement de parallèles qu'il peut admettre. Et Cross, finalement, propose la solution inverse. Kemosh, en fait, serait l'épithète de Ashtar. Mais là, de nouveau, je dirais l'évidence épigraphique et biblique parle contre cette solution. Je viens à la théorie d'André Lemaire, qui dit que ça peut être un nom commun signifiant divinité ou Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, les meilleurs exemples que André montre, c'est plutôt des substantifs signifiant des déesses. Et on ne comprend pas totalement pourquoi Kemosh aurait besoin d'être appelé la divinité juste dans cette ligne-là. Faut donc partir du constat que le terme Ashtar dans la stèle de Mesha devrait être compris comme un nom propre entre guillemets, vous allez voir pourquoi je le mets en guillemets, et cette idée est en effet partagée par la plupart des commentateurs, dont beaucoup néanmoins considèrent que nous avons affaire à un nom masculin. Pour Barton, par exemple, Ashtar Kemosh serait un nom double pour une seule divinité. Il envisage l'hypothèse selon laquelle Ashtar et Kemosh auraient été à l'origine deux divinités qu'on aurait dans la suite fusionnées. Et il donne comme exemple l'expression « Yahvé Elohim » dans la Bible. Mais là, il y a un problème parce que cet exemple, ce n'est pas du tout concluant, parce que Yahvé Elohim, ce n'est pas une fusion de deux noms divins. Elohim, c'est un nom générique. Et Yahvé Elohim, vous le trouvez seulement, en fait, dans l'histoire de la création d'Adam et Ève et dans l'expulsion du jardin, pour faire justement le lien entre le Elohim dans le récit sacerdotal et le Yahvé dans le récit dit yahviste. Donc, à mon avis, c'est un exemple qui ne marche pas et c'est un nom générique, comme je disais. Si on veut penser que Elohim est un nom propre dans le sens de Dieu majuscule, comme l'a montré Albert de Cury, ça apparaît à un moment très très récent dans le milieu sacerdotal. Si on veut considérer Ashtar comme le nom d'une divinité masculine, on pourrait envisager avec Müller que, donc c'est toujours un peu dans le même sens, que l'identification de Chemosh avec Ashtar aurait pour but, comme il appelle ça, die integrative Ausschaltung des in Randgebieten immer noch wichtigen alsemitischen Gottes, donc en fait l'élimination de ce dieu donc, qui sera toujours été important encore en l'identifiant avec Chemosh. Le problème, c'est en fait que toutes ces explications laissent aussi un peu de côté le lien entre Ashtar Chemosh et le Kherem. Pourquoi est-ce que c'est juste à ce moment-là? Et il y a aussi un problème grammatical. Si on avait voulu associer deux dieux, on aurait pu s'attendre aussi à une conjonction, comme on l'a par exemple dans le cas de Kota Vakarsis à Ugarit. Et donc le séparateur d'ailleurs que nous avons entre Ashtar et Chemosh ne parle pas en faveur, comme le dit aussi, malheureusement il n'est pas parmi nous, Emmanuel Gass, que ça ne parle pas tellement en faveur d'une Doppelgottheit. Alors, est-ce que Ashtar est donc du coup un nom masculin? Les avocats de cette théorie insistent d'abord qu'on aurait dû avoir, si c'était une divinité féminine, un T, donc terminaison féminin à la fin. Et c'est vrai que le dieu Ashtar est bien attesté à Ugarit, notamment dans le cycle Baal et la mort. On se moque d'ailleurs un peu de lui, puisqu'il ne sait pas régner, il est trop petit pour régner à la place de Baal. Donc, que Ashtar apparaisse comme une divinité masculine à Ugarit et ailleurs ne signifie cependant pas que ce nom soit utilisé d'une manière exclusive pour des dieux masculins. Il peut sans problème être utilisé pour désigner une déesse, ce qui est d'abord aussi le cas pour Ishtar et la déesse araméenne Atargatis, comme le soulignait aussi Manfred et Helgard Weipert. À Ugarit, on a aussi un nom propre, Ashtar Um, donc Ashtar est mère, mais on ne sait pas très bien si c'est donc Ashtar vraiment le masculin qui a aussi ses qualités féminines ou non. En Arabie, c'est surtout là où Ashtar peut apparaître comme le nom d'une déesse. En Arabie du Nord, la déesse Ashtar Shamaim se trouve à la tête du panthéon de Douma, déesse principale de la tribu de Kedar et des tribus apparaissant dans des documents néo-assyriens dans le contexte de ce groupe de Shumuil, comme l'a montré Axel Knauf. Christian Robin a démontré aussi que dans beaucoup de textes, et je cite, Ashtar peut souvent s'analyser comme un théonyme féminin, plus ou moins substantivé, qui dérive probablement de l'Ishtar mésopotamienne. Parallèle particulièrement intéressant sont des cas où Ashtar, comme dans la stèle de Mesha, est déterminé par un nom de divinité. Dans ce cas, toujours Robin, on retire l'impression que Ashtar est l'épouse du dieu. Il faudrait alors distinguer, en suivant Robin, deux emplois de Ashtar, masculin et féminin, peut-être selon des régions différentes. Et bon, une autre possibilité, proposition par Robin, c'est peut-être avec deux vocalisations différentes, Ashtar ou Ishtar. Donc, il faut donc retenir qu'il existe de nombreux exemples attestant l'emploi de Ashtar pour désigner une déesse. Et si on comprend l'expression Ashtar Chemosh comme une construction génitivale, il me semble qu'il ne peut guère s'agir que d'une déesse, la Ashtar ou la Ishtar de Chemosh. Une telle subordination des déesses est en effet bien attestée et un parallèle assez proche de Ashtar-Chemosh se trouve en fait à Éléphantine, où dans un serment d'un dénommé Menachem, donc dans le contexte d'une vente d'un... je crois c'est quoi, non c'est pas, c'est un, je sais plus qu'est-ce qu'ils ont vendu, mais c'est... je me souviens plus, c'est... non c'est pas un cheval, non c'est un, ah, peu importe, mule ou quelque chose comme ça. Donc dans ce document de vente en fait, Menachem prête serment par le sanctuaire et par Anat Yahou. Donc, il s'agit dans ce texte, donc très vraisemblablement, de la déesse Anat associée à Yahvé ou à Yahou. Dans une autre liste des dons pour Yahou, on trouve à côté de Yahou Achim Bethel et Anat Bethel. Donc, si Anat est tantôt associée à Yahou, tantôt à la divinité Bethel, on peut aussi imaginer que elle signifie plus forcément une déesse spécifique, mais le nom est devenu la désignation tout simplement d'une paraître. Revenons à la stèle de Mécha. Il nous semble qu'après cette enquête, il est assez plausible qu'on peut comprendre Ashtar Kamosh comme signifiant la paraître de Kemosh, la Ishtar de Kemosh. Il est difficile de décider s'il s'agit simplement de la dame de Kemosh ou d'une déesse spécifique, car, comme le rappelle aussi Robin, la frontière entre les deux catégories non propres et non communs, ce que je vous disais tout à l'heure, est souvent tenue. Reste à élucider la question de savoir pourquoi la Ishtar ou la Ashtar de Kemosh apparaît en lien avec le Kherem dans l'inscription de Mécha. Donc il est possible que la Ishtar de Kemosh a été en effet vénérée comme une déesse guerrière, un peu comme aussi la Ishtar mésopotamienne. Et dans ce cas, en effet, on pourrait peut-être en effet suivre Harding et Holmes Frederick dans leur identification de la figurine trouvée à Amman, à Ashtar Kemosh, car si on la met en relation avec la Ishtar mésopotamienne, il y a aussi souvent ces combinaisons entre des attributs féminins et masculins. Il est possible que la Ishtar de Kemosh ait surtout été vénérée au sanctuaire où le Kherem fut exécuté, peut-être à Kariot, mentionné en ligne 13. La fonction guerrière d'Atashamaïm est également attestée, donc on serait là dans des comparaisons tout à fait possibles. Donc on pourrait imaginer que la Ishtar de Kemosh était la déesse qui permettait à Mécha de remporter la victoire contre Israël à Nebo. On pourrait éventuellement y voir un parallèle aussi avec la fonction d'Achéra, puisque dans l'inscription de Kirbet Elkom, elle est celle par qui Yahvé sauve Oriahu de ses ennemis. Béni soit Oriahu par Yahvé de ses ennemis, par son Achéra, il l'a sauvé. Je viens à une très brève conclusion. L'expression Ashtar Kemosh dans la stèle de Mécha trouve sa meilleure explication dans une construction génitivale associant une déesse, Ashtar, Ishtar, ou le nom d'une déesse, au dieu moabite Kemosh. Il s'agit donc toute d'une variante levantine de la Ishtar mésopotamienne ou de la Atashamaïm araméenne, voire nord-arabique. Cette déesse était peut-être vénérée plus particulièrement dans le sanctuaire où Mécha avait pratiqué le Kherem. L'identification de Ashtar ou Ishtar à la paraître de Kemosh confirme par ailleurs ce qui a été discuté dans la première partie de cette communication, à savoir le fait que Yahvé et Kemosh étaient vers la fin du IXe siècle, avant l'ère chrétienne, vénérés comme étant des divinités tutélaires, pouvant se mettre en colère, mais étant sans doute aussi accompagnés des épouses ou des déesses. Je vous remercie.